Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous. Dans Décryptage, ce soir, l'Europe face au défi de créer sa propre défense. Ça fait longtemps qu'elle en parlait. L'Europe n'a désormais plus le choix face au brutal désengagement américain. Alors que Washington a coupé son aide à l'Ukraine et engagé son rapprochement avec Moscou, les Européens mis à l'écart mesurent désormais l'importance d'acquérir enfin leur autonomie stratégique pour pouvoir continuer à aider l'Ukraine et muscler leurs capacités en matière de défense. Les 27 ont ainsi validé la semaine passée le plan de réarmement de 800 milliards d'euros de la Commission européenne. Un premier pas vers la naissance d'une Europe de la défense qui préfigure une véritable révolution militaire et industrielle. L'Union européenne a-t-elle les moyens de ses ambitions? Les 27 pourront-ils s'entendre face aux immenses défis qui les attendent avant de pouvoir se passer enfin un jour du parapluie américain? On fait le point ce soir avec nos invités. À mes côtés dans ce studio, Sylvie Matelli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et directrice de l'Institut Jacques Delors. Et également avec nous, Pascal Joannin, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Merci à vous deux de nous rejoindre sur RFI. Certains Européens, je le disais, en rêvaient depuis des années, Sylvie Matelli. Mais il aura fallu toute la brutalité du revirement américain pour changer la donne et lancer ce qu'on peut appeler un réarmement dans l'urgence.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un réarmement dans l'urgence. Quelle urgence, en fait? L'urgence, c'est le désengagement américain par rapport au soutien à l'Ukraine et à la guerre en Ukraine. Et puis, c'est le risque aussi que ce désengagement américain produise à moyen ou long terme un véritable désengagement des États-Unis sur la scène européenne et pour assurer la sécurité européenne. Donc, bien évidemment, ça fait très peur, surtout que ce désengagement avéré pour l'Ukraine et potentiel pour la défense européenne, se produit au moment où on est face à une Russie qui apparaît de plus en plus dangereuse aux yeux de la plupart des Européens. Et donc, il les pousse à vouloir s'armer pour se protéger au cas où, et puis où les menaces se multiplient. Donc, très clairement, on est dans cette logique-là, dans cette logique d'urgence, ce qui est assez intéressant et assez rassurant, puisqu'on sait que l'Europe se construit très souvent dans les crises.
Sur cette Europe de la défense, les Européens traînaient des pieds depuis des années. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire merci Donald Trump?
Je ne sais pas si on peut dire merci Donald Trump, on verra ça dans quelques années, mais c'est effectivement une bonne nouvelle, qu'il y ait une prise de conscience que le parapluie américain ne sera peut-être pas éternel et qu'il est nécessaire de se réarmer ou de s'armer, de travailler ensemble à notre armée. Et c'est d'autant plus intéressant et important qu'il y a une compréhension aussi, quel que soit le degré d'atlantisme de nos partenaires européens, qui s'est certes bien réduit, mais qui reste quand même important, c'est très intéressant parce que il y a aussi cette compréhension que plus on sera armé et capable d'assurer notre sécurité, plus peut-être on retiendra les Américains pour toute ou partie dans les enjeux de sécurité européenne.
Alors dans cette révolution militaire qui s'annonce avec ce plan à 800 milliards d'euros, Pascal Joannin, est-ce que là encore on peut dire merci à un autre chef d'État, au chancelier allemand Merz? Est-ce que c'est lui qui a donné cette impulsion en levant le frein, notamment sur l'endettement militaire, en renonçant à la sacro-sainte règle des 3% de déficit?
Il est certain que les Allemands ont changé de pied et que pour eux, ce relation transatlantique est un véritable tremblement de terre. En effet, pour la France, c'est, j'allais dire, moins évident, mais pour les Allemands qui s'étaient complètement liés pieds et mains aux Américains pour leur défense, l'attitude américaine et les déclarations de Donald Trump font comme une douche froide. Donc c'est vrai que le chancelier allemand, enfin le futur chancelier allemand, celui dont le parti a remporté les élections, a fait des déclarations qui, j'allais dire, sont une réponse un peu à celle de Trump. Et que donc, en effet, on voit un changement de pied à l'œuvre, à la fois sur les questions de défense, parce que comme vous l'avez dit, on prend fait et cause que les Américains ne seront plus là. Et il y a des bases américaines en Allemagne. Hein. Aujourd'hui encore, il y a des troupes, il y a des soldats américains qui sont basés en Allemagne. Mais en matière économique, puisque vous dites le fameux frein à l'endettement, c'est une règle économique qui ne concernait pas la défense, hein, qui fait que les Allemands, qui sont particulièrement rigoureux, avaient eux-mêmes mis dans leur constitution le fait qu'ils n'étaient pas ni endettés ni en déficit. et qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, ce frein à l'endettement est un peu une épine dans leurs chaussures, et ils veulent utiliser la majorité, je crois que c'était le reportage que nous avions dans le journal qui était juste quand nous sommes arrivés dans le studio, la possibilité de modifier cette constitution avec le Bundestag qui finit de siéger pour avoir en effet une majorité des deux tiers qui est nécessaire pour lever ce frein à l'endettement qui permettra aux Allemands, s'ils décidaient de dépenser pour leur défense, d'être un petit peu comme les autres pays européens, de ne plus être soumis aux règles du pacte de stabilité européen quand on dépense pour sa défense.
Est-ce qu'on revient à l'idée même de la construction de l'Europe de manière assez paradoxale, en se réarmant pour garantir la paix du continent, Pascal Joannin ?
Alors, il faut toujours se souvenir qu'au tout premier étage de la fusée européenne, dans les années 50, il y a eu un projet de communauté européenne de défense, il y a 70 ans, etc., que la France a mis sur la table et que la France a torpillé. Donc, parce qu'à l'époque, 4e République, les majorités n'étaient plus les mêmes entre le moment où on a pris le projet et le moment où il est arrivé à maturité au Parlement, la majorité avait changé. Et depuis cette époque, donc communauté européenne échec de la communauté européenne de défense, l'Europe n'avait pas mis sur la table, dans le panier commun, je rappelle toujours que l'Europe, c'est ce que les États membres veulent bien qu'elle fasse, hein, c'est pas Madame von der Leyen aujourd'hui ou Jacques Delors il y a 50 ans, 25 ans, qui se permettaient de faire des choses. Ils sont là parce que les États leur demandent. Et aujourd'hui, on voit bien que les États se disent, eh bien, et si on mettait un peu plus de défense dans le pot commun, bien entendu, il y a la défense que nous continuons à assurer au niveau national, mais il y a peut-être des choses qu'on pourrait faire de manière plus intelligente en coopération avec les moyens financiers qu'a l'Union européenne et le AAA qu'a l'Union européenne également au niveau financier.
Sylvie Matelli, ce plan de réarmement à hauteur de 800 milliards d'euros, est-ce que ça va être suffisant ou c'est simplement une mise de départ avant une possible mutualisation de nos dépenses de défense ?
Alors déjà, ce n'est pas un plan de 800 milliards. C'est un plan qui prévoit un certain nombre de mesures qui, toutes mises bout à bout, peuvent permettre aux États complété par un budget européen avec des fonds dédiés à la défense, d'investir, c'est même pas de dépenser, d'investir 800 milliards pour réarmer l'Europe. Le réarmer, le armer est très important parce qu'on parle pas de défense, on parle d'armement. Donc on parle d'industrie. Et donc l'idée, c'est de développer ce qu'on appelle traditionnellement la base industrielle et technologique de défense européenne, c'est-à-dire des industries de défense qui soient actives sur tout le territoire européen et qui permettent de produire plus. Et en fait, l'enjeu, quel est-il derrière tout ça ? Et pour la première fois, il est écrit noir sur blanc, il a été réitéré par la présidente de la Commission européenne et validé par les États en Conseil, c'est de permettre aux industries de la défense européenne de produire plus, pour fournir et livrer plus d'armements européens à nos armées. Et c'est la fameuse préférence européenne que défendaient les Français depuis très 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 longtemps et qui était quand même mise entre parenthèses, voire sous le tapis par un certain nombre de partenaires européens qui considéraient que si on voulait garder les États-Unis en Europe, il fallait acheter américain.
Il va falloir changer cette vieille habitude européenne d'acheter du matériel militaire américain, sinon l'Europe de la défense ne se fera pas.
Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que en fait, l'Europe de la défense, certes, ne se fera pas si on ne renforce pas nos capacités de production, mais la défense européenne, elle était assurée par ces matériels militaires américains. Et pourquoi les autres États achetaient ?
C'était pour fonctionner aussi dans l'OTAN.
C'était pour fonctionner dans l'OTAN, c'était pour avoir la garantie de sécurité, cette fameuse garantie de sécurité prévue par l'article 5. Et donc, bien évidemment, on achetait américain parce que bien, c'était s'assurer la viabilité, ou en tout cas l'effectivité de cette garantie de sécurité. À partir du moment où les Américains ne garantissent plus cet article 5 et cette garantie de sécurité, eh bien, il faut pouvoir nous-mêmes se prémunir de tout, te menace, et donc s'armer nous-mêmes. Donc c'est vraiment, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est vraiment à un moment de bascule où il y a cette prise de conscience que peut-être que les Américains demain ne sont plus là, et donc il faut être capable nous-mêmes d'assurer notre sécurité.
Pascal Joannin, est-ce qu'il faut que les 27 avancent tous en même temps dans la construction de cette Europe de la défense, ou est-ce qu'on peut penser à un noyau dur comme on l'avait fait, par exemple, pour la monnaie unique.
Elle sera forcément à géométrie variable, cette Europe de la défense. D'abord parce que, je rappelle qu'il y a 4 États neutres encore dans l'Union européenne, et que donc cela, par principe, ne dépense pas d'argent pour leur défense. Mais nous avons également, dans ces questions de défense, des pays aujourd'hui, pour des raisons politiques, on peut penser à la Hongrie ou à la Slovaquie, qui sont un tropisme pro-russe ou pro-américain, qui se disent « bon, moi je ne veux pas dépenser aujourd'hui pour la défense ». Bon, très bien. Pour le moment, il y aura des élections, ils ne sont pas là forcément.
Donc, de fait.
Et puis, donc, et après, ce qu'on appelle beaucoup dans le jargon militaire la coalition des volontaires, hein, c'est-à-dire que voilà, on fait avec ceux qui veulent bien. Et donc, ceux qui veulent bien, on voit bien qu'il y a la France, qui est toujours là, qui est la vieille nation, qui a une position très particulière.
En tout cas, pour le président
de défense,
Macron,
puisque
cette idée, hein,
au sein de l'Union, c'est la seule puissance nucléaire. Donc voilà, on pose les termes du débat au sein de l'Union. Vous avez aujourd'hui les Polonais, les Baltes, qui avec à la faveur de l'agression russe en Ukraine il y a 3 ans, se sont sentis très sensiblement visés. Et vous avez la Pologne qui préside le Conseil de l'Union aujourd'hui, qui a fait de la sécurité son mot d'ordre et dont on voit bien les efforts depuis plusieurs années pour doubler le budget de la défense. Ils sont presque à 4% du PIB quand, en effet, Donald Trump disait qu'il fallait au moins que les États européens en dépensent 2. Puis vous avez l'Allemagne. Alors l'Allemagne, on va y revenir, puisque l'Allemagne, c'est l'exemple même de ce que Sylvie donnait comme un pays qui était complètement inféodé aux États-Unis. Et que donc, le revirement de Trump oblige l'équipe nouvelle à Berlin de changer complètement de position, de doctrine, sur en effet le fait que ils vont dépenser en effet en matière de défense, déjà, puisque compte tenu de leur histoire, l'Allemagne, on disait que moins elle investissait en matière de défense, mieux c'était, on se souvenait du Troisième Reich. Et puis, il y avait en effet ces pieds maliés où on achetait américain par principe, et on ne regardait même pas s'il y avait sur étagère d'autres produits européens. Et c'est là que l'Europe a tout intérêt à faire en sorte que ces programmes qui sont mis en place ou qui seront mis en place dans le cadre de ce plan de réarmement soient faits pour, dans la mesure de possible et quand le matériel européen existera, de l'acheter d'abord en préférence européenne à des pays qui le diffuseraient, enfin qui le conduiraient aux matières européennes, avant d'aller regarder aux États-Unis ou ailleurs. On a acheté des produits coréens, on a acheté des produits sahéliens, on a même des produits turcs, notamment en matière de drones. Donc il faut regarder en effet qu'on produise suffisamment nous-mêmes pour être indépendants. Et si on a besoin un jour d'aller chercher ailleurs, pourquoi pas, mais de regarder. Et aujourd'hui, quand on regarde le matériel, on voit bien que les Allemands, sans avoir jusqu'à présent fait beaucoup d'efforts en matière de défense, construisaient déjà il y a 70 ans, mais construisent toujours les meilleurs chars. Et qu'en matière d'avions, plutôt que d'avoir 3 ou 4 avions différents, on pourrait en avoir un seul, européen, qui ait toutes les qualifications, etc. Et qui permettrait aux États qui s'étaient un petit peu aveuglés de ne plus acheter forcément le F-35 américain, qui, je le rappelle, les met complètement pied et mallier, puisque la grande partie de ce qui est utilisation dans le matériel de F-35 dépend du bon vouloir des Américains.
Mais est-ce que tout ça risque pas d'être freiné, toute cette ambition, par les budgets contraints d'un bon nombre de pays, dont la France, peut-être hors Allemagne, puisque l'Allemagne, elle, a les moyens de cette ambition-là.
Alors, le budget, au niveau européen, on est au milieu de l'exercice budgétaire actuel, hein, qui finit en 2027. Donc, si en effet, on vise le long terme, il va falloir repenser, et c'est dès cette année que Mme von der Leyen et ses équipes doivent proposer un projet de budget sur le 2028-2035. Et donc là, on verra en effet si elle met... Mais elle l'a dit elle-même l'autre jour, il fallait que sur la question de défense, on aille plus loin. On voit bien que dans le mandat précédent, il y avait déjà le tonitruant de Thierry Breton qui avait fait beaucoup. On a aujourd'hui, nouveauté de la Commission européenne, un commissaire chargé de la défense. Alors, je l'intitule chargé de l'industrie de défense plutôt que de la défense.
Ça tombe bien.
Il n'est pas chef des armées, il ne s'occupe pas de militaires, il s'occupe plutôt d'industriels. Et c'est ça, la vraie dimension de l'Europe sur cette question. Elle n'est pas sur les hommes, sur la stratégie et la tactique. C'est plus sur l'industrie et faire en sorte qu'on essaie essaye de faire avancer, la coopération pour qu'on essaie vite de se faire de la guéguerre entre nous, entre produits, et qu'on crée une synergie européenne pour avancer.
Alors, une question qui posera peut-être problème, c'est la question du commandement de cette future Europe de la défense. Sylvie Mottoli, qui va prendre la tête de ce mini-OTAN? Quelle doctrine stratégique et tout simplement l'organisation politique et militaire de ce nouvel ensemble? Ça risque pas de diviser les uns les autres?
Alors, sur ce sujet-là, c'était pas véritablement le sujet de ce qui s'est passé la semaine passée en réalité. Hein.
On était vraiment sur...
C'est le sujet de demain. Et encore une fois, l'OTAN n'est pas mort. Et un désengagement qui sera probablement plus progressif que brutal, même s'il peut être brutal, ne déconstruit pas complètement l'OTAN. Et l'OTAN peut continuer à fonctionner avec ses modalités de fonctionnement. Mais un élément très très important, parce que ça a été un objet de débat avec plein de fantasmes autour de ça, moi je voulais un petit peu revenir peut-être sur cette question budgétaire. Déjà, le budget européen, il faut bien se rendre compte que la totalité du budget, je ne parle pas du budget dédié à la défense, la totalité du budget européen, c'est 1% du PIB européen. Donc autant dire que par rapport à l'effort de défense qui est demandé aujourd'hui, c'est rien du tout. Et aujourd'hui, la partie de ce budget en cours dont parlait Pascal, la partie de ce budget en cours, je crois que c'est 0,5 ou 0,6% de ce budget qui est dédié à la défense. Donc c'est rien du tout. Et quand bien même on multiplierait par 3 ou 4, ça serait 2% de 1%. Honnêtement, c'est pas avec ça qu'on va gagner. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est que les pays européens ont énormément augmenté leurs dépenses militaires depuis 2014, mais essentiellement depuis le début de la guerre en Ukraine, donc en 2022, c'est quasiment plus 30%. Mais si vous regardez les investissements dans l'industrie de la défense, ils ont augmenté de 96% en deux ans. 96% en deux ans, c'est énormissime. Il faut savoir qu'en 2014, on dépensait 24 milliards, tout confondu en européen, pour investir dans notre industrie, on est aujourd'hui à 102 milliards. Donc on a multiplié par 4. Donc les efforts ont été faits et je crois qu'il n'est pas question aujourd'hui d'investir plus dans la défense au détriment du modèle social ou quoi que ce soit. C'est des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir. Il est juste nécessaire d'investir un petit peu plus, mais surtout mieux, surtout ensemble, parce qu'il faut qu'aujourd'hui on soit capable de mettre en place toute une architecture de sécurité européenne et donc des industries qui soient capables de nous équiper. Et c'est vraiment ça le défi.
Voilà ce que vous nous dites, Sylvie Mottoli, c'est qu'on ne part pas de rien. Pascal Joannin, combien de temps pour atteindre l'autonomie stratégique souhaitée? C'est l'affaire d'une décennie?
Ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense, parce que l'Europe était un peu endormie, c'était la belle au bois dormant, enfin vous mettez le titre que vous voulez, en matière de défense. Hein. Et on s'est réveillé brutalement avec, généralement, comme souvent, l'Europe réagit. Et donc, bien entendu, il y a des efforts immédiats pour l'Ukraine. On voit bien que l'idée aujourd'hui de ces déclarations, c'est pour faire en sorte que ce pays soit soutenu quand les Américains le laissent tomber, et puisse, le jour où des pourparlers s'engageraient dans de manière de bonnes conditions, ce pays soit en meilleure posture pour négocier. Au-delà de ça, ça peut aller très vite parce que la volonté politique est là. Et puis, ça fait sauter beaucoup de tabous. Alors, en Allemagne, vous avez dit, et on le voit, etc. Vous avez quand même des pays qui étaient neutres, comme la Finlande et la Suède, qui sont devenus membres de l'OTAN. Vous avez au sein de l'OTAN des choses qui vous disent, bon, les Américains, si demain, ils ne veulent plus être là, il va falloir que nous, à l'intérieur de l'OTAN, en fait. Et puis, vous avez les Britanniques. Les Britanniques qui sont pas dans l'Union, qui sont pas dans l'OTAN. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coopération qui se fait dans des cadres complètement hors institution, mais qui permettront d'avancer très vite, tous ensemble, avec tous ceux qui veulent.
Et nous en reparlerons bien sûr sur RFI. Merci Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Merci également à Sylvie Mottoli, économiste, directrice de l'Institut Jacques Delors. Tous mes remerciements à Eleanor Krenik qui m'a aidé à préparer cette émission et également à la réalisation ce soir, Fabrice Violette.